Santé, une chronique libre autour des corps, du soin, des soignants,
soignantes,
des patients,
patientes
et du système de santé. La vache, une promenade radiophonique subjective autour de la vaccination. Deuxième épisode. QR code, QR code, est-ce que j'ai une tête de QR code ?
Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre.
Vous vous souvenez ? On est le 12 juillet 2021. Le Covid circule depuis fin 2019 et Emmanuel Macron annonce la mise en place de l'obligation vaccinale. Près de 70 professions devront obligatoirement se faire vacciner avant le 15 septembre, soit 1,5 million de personnes. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus sans salaire. Petite consolation, la possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination au bout de 2 mois, initialement voulu par le gouvernement, a été supprimée. Le 17 décembre suivant, nouvelle annonce. Jean Castex, alors Premier ministre, nous annonce la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, à compter du 24 janvier 2022. Ce pass concerne les personnes âgées de 16 ans et plus, et pour l'obtenir, il faut justifier d'un schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement valide, c'est-à-dire en gros un résultat de labo qui montre qu'on a déjà été malade, ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination. Et tout ça sous la forme d'un joli QR code, format papier ou dans la fameuse application Tous Anti-Covid. Le pass vaccinal restera en vigueur pendant près de 2 mois jusqu'au 14 mars et est considéré alors par beaucoup de gens comme une extension de l'obligation vaccinale des soignants à l'ensemble de la population. D'autant plus que Macron, avec sa finesse habituelle, déclare début janvier 2022 dans Le Parisien vouloir, ouvrez les guillemets, emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. Fermez les guillemets. Écoutons le professeur Zurek euphémiser plus poliment à ce sujet sur France 24. Tendez bien l'oreille.
Avec nous, la première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est que va changer concrètement l'instauration de ce pass vaccinal ?
Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Le pass vaccinal, ça veut dire que maintenant, on ne peut pas utiliser les tests pour pouvoir aller au restaurant, au théâtre ou d'autres endroits. Il faut qu'on soit vacciné.
Obligation vaccinale, la bombe est lâchée. L'expression devient omniprésente dans les médias, dans les discussions. On ne peut qu'être pour ou contre. Certaines crient à l'atteinte aux libertés individuelles alors que d'autres en appellent au sens du collectif, voire traitent les personnes qui refusent le vaccin d'assassins en puissance. Je ne vous refais pas l'histoire, ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, près de 4 ans plus tard, la vaccination contre le Covid n'est plus obligatoire. Elle a presque disparu de l'actualité et a rejoint la liste des vaccins recommandés. Mais alors cette obligation vaccinale qui faisait tant débat, où en est-on aujourd'hui ? Ça existe encore ? Et avant le Covid, ça se passait comment ? C'est sur ces questions qu'on va se pencher aujourd'hui, dans cette deuxième émission consacrée à la vaccination. Je vous propose qu'on fasse ensemble un point sur l'obligation vaccinale en France, de quand date sa mise en place, comment elle s'est faite, comment elle a évolué et continue à évoluer avec le temps. Pour cela, on s'appuiera notamment sur la variole, comme dans le premier volet que je vous invite à écouter ou réécouter sur le site de Radio Saint-Fé. On parlera aussi un peu du Covid, mais pas trop non plus. Il faut garder de la matière pour les prochains épisodes. Alors avant de me lancer sur le sujet, j'ai fait un état des lieux, pas du tout objectif ni exhaustif, des informations que les gens autour de moi avaient sur ce sujet. Je leur ai posé 3 questions très courtes. J'ai ainsi interrogé mes collègues de bureau, j'ai aussi posé la question à des amis ou au bar. Écoutez. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez de quand date l'obligation vaccinale en France ?
1950.
Allez,
1958.
1948.
85.
En 1905.
Moi, je dirais plutôt l'entre-deux-guerres. Non, même pas. Je dirais plutôt l'après-deuxième guerre mondiale, genre 1950.
1924.
Ouais. 1977, non ?
2020.
Deuxième question. Est-ce que vous savez quelle maladie était concernée par cette première obligation vaccinale ?
Poliomyélite, tétanos, poliomyélite.
diphtérie.
La grippe ?
Une grippe, une bonne grippe.
Moi, je dirais la variole.
Diphtérie.
Et est-ce que vous savez aujourd'hui combien de vaccins sont obligatoires chez un nourrisson ?
11.
Une dizaine.
Moi, j'aurais dit une vingtaine.
9.
Attends, c'est 11. Non ?
On doit arriver près de la dizaine en 2026, j'imagine ? Ou un
ouais,
peu
ouais, 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 moi, je dirais un peu une dizaine dans un cocktail d'une piqûre ou deux.
11 ? Je sais pas.
Ouais, j'aurais dit 11 aussi. On va donner des chiffres. 7.
Comme on peut l'entendre, les réponses sont variées et pas vraiment consensuelles. Mais j'ai fait mon premier micro-trottoir et ma coach à Radio Saint-Fé est super contente. Alors pour qu'on soit toutes et tous au même niveau d'information, faisons d'abord une petite mise au point. Je vais essayer d'être le plus clair possible. En France, si on se base sur le calendrier vaccinal 2025, consultable sur le site du ministère de la Santé, il y a à ce jour 12 vaccins obligatoires contre des virus ou des bactéries. On prend une grande respiration et on y va. Il s'agit de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, l'hémophilus influenza B, les méningocoques des sérotypes A, C, W, Y et B, qui peuvent provoquer des méningites, et contre le pneumocoque, responsable lui de pneumonie et de méningite. Jusqu'à fin 2024, 11 vaccins étaient obligatoires, et depuis janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques des groupes A, C, W, Y a remplacé celle contre le groupe C uniquement, et s'est ajoutée à cela celle contre le méningocoque B. Alors ces lettres A, C, W, Y et B servent à désigner différents sérogroupes, ou pour faire plus simple, différentes variétés d'une même bactérie. Les vaccins actuels sont dirigés contre celles responsables de la majorité des infections graves. En pratique, cette obligation s'applique à tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 et avant l'âge de 2 ans. Ceux nés avant 2018 n'étaient soumis qu'à 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos et poliomyélite. À côté de ces vaccins obligatoires, il en existe également près d'une dizaine qui sont recommandés dans différentes populations. Populations fragiles, femmes enceintes, personnes âgées, professionnels de santé, personnes vivant dans certains territoires comme la Guyane ou aux Antilles, personnes qui voyagent, etc. Il s'agit notamment des vaccins contre la tuberculose, mais aussi contre le Covid, la grippe, l'hépatite A, la fièvre jaune, le virus respiratoire syncytial responsable d'infections respiratoires et de bronchiolite, la dengue, certains papillomavirus, etc. La principale différence entre les vaccins obligatoires et ceux recommandés réside dans leur statut légal. Les premiers ont été rendus obligatoires par un vote du Parlement, ce qui leur confère un caractère contraignant sur le plan juridique. En revanche, de manière contre-intuitive, cela ne signifie nullement qu'ils sont plus importants sur le plan individuel ou collectif que les vaccins qui sont simplement recommandés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. En effet, la coexistence de vaccinations recommandées et obligatoires pour les jeunes enfants n'a pas de sens en termes de santé publique, mais reflète en fait l'histoire des vaccins et de la politique vaccinale en France, comme on va le voir. Alors comment en est-on arrivé à ce nombre de 12 vaccins obligatoires ? Remontons en arrière. En France, l'obligation vaccinale existe en fait depuis plus d'une centaine d'années. Elle est apparue dès la mise au point des premiers vaccins, et on peut même dire qu'elle est intrinsèquement liée à l'histoire de la vaccination. Dans l'épisode précédent, on a longuement parlé de la variole et du développement de la vaccine, forme de maladie qui circule chez la vache et qui a été utilisée pour protéger contre l'infection humaine, et dont dérive le terme « vaccination ». La mise au point de ce premier vaccin a non seulement radicalement changé la prise en charge des maladies infectieuses, puisqu'elle a posé les bases de la mise au point des vaccins modernes, mais a aussi créé un précédent dans l'histoire médicale. Pour la première fois, un geste individuel permet non seulement de se prémunir plus ou moins efficacement contre une future maladie, mais également de protéger le groupe au sein duquel on évolue, en réduisant la circulation du pathogène. La décision de vaccination a ainsi des conséquences à la fois personnelles et sociétales. Si on reprend notre exemple de la variole, auparavant la seule mesure de santé publique envisageable pour protéger la population est la mise à l'écart des malades, leur isolement contre leur gré. C'est d'ailleurs en partie ce qui a été mis en place au tout début de l'épidémie du Covid. Souvenez-vous, au début de la circulation du virus, toute personne testée positive était tenue de s'isoler à son domicile pendant 10 puis 7 jours. En juillet 2021, un projet de loi a même envisagé un isolement obligatoire, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Revenons à la variole. L'arrivée de la vaccination développée par Jenner à la fin du XVIIIe siècle, puis le développement des premiers vaccins produits à une échelle industrielle dans les années 50, transforme la lutte contre la maladie. Malgré l'absence d'études cliniques de grande ampleur, à part les expérimentations menées chez les enfants abandonnés ou placés, dont on a parlé dans notre précédente émission, l'efficacité vaccinale sur la réduction de la circulation de la variole est constatée rapidement. Et en France, la question de l'obligation vaccinale pour lutter contre la maladie est posée dès la fin du XIXe siècle. Elle est d'abord appliquée aux soldats lors de leur incorporation au service militaire à partir de 1811. Dans le contexte des guerres récurrentes entre les différentes nations européennes, il est primordial de disposer d'une armée en bon état. Il ne faut pas non plus négliger les aspects juridiques de l'époque. Sous le règne de Bonaparte, l'obligation vaccinale n'est envisagée qu'à l'encontre des individus soumis au pouvoir disciplinaire de l'empereur, donc notamment les soldats et les enfants trouvés, qui peuvent servir de réservoir vaccinal. Rappelez-vous l'épisode précédent. L'empereur doit composer avec le respect de l'autorité paternelle absolue, le pater familias romain que le code civil napoléonien a remis au goût du jour. Le père et le mari règnent sans partage sur leurs enfants et leurs femmes qui sont dépourvues de la moindre autonomie, du moindre droit. En 1834, devant le constat que la variole provoque toujours de nombreuses victimes, la vaccination obligatoire est étendue aux enfants, lors de leur entrée à l'école primaire, mais aucune vérification effective de la vaccination n'est mise en place, toujours pour ménager la susceptibilité des pères de famille. Un règlement de 1851 prévoit finalement ce contrôle, mais attribue ce rôle délicat à l'instituteur sans lui offrir les moyens d'accomplir sa mission. En 1881, Bonaparte n'est plus là. L'instruction élémentaire publique devient gratuite et l'école publique devient le lieu principal et suffisant de la vaccination. À partir de 1887, chaque enfant doit présenter à l'instituteur un bulletin de naissance et un certificat médical, constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la variole. La dernière étape, la vaccination obligatoire pour tous, est ordonnée par la loi du 15 février 1902, qui instaure la vaccination antivariolique obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la 11e et 21e année. Bon, donc ok, on a un vaccin obligatoire, mais les autres, ils arrivent quand? En gros, dès les années 30 à 2018, les nouvelles vaccinations obligatoires, outre la variole, sont mises en place au gré de la mise au point des vaccins contre les principales maladies infectieuses, qui circulent encore à l'époque, avec une mortalité relativement élevée, ou qui provoquent de graves séquelles chez les malades qui survivent. Contre la diphtérie, obligatoire depuis 1938, le tétanos, depuis 1940, la tuberculose à partir de 1950 et la poliomyélite à partir de 1964. Pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, la vaccination se fait d'abord avec trois vaccins distincts, jusqu'à la mise au point dans les années 60 d'un vaccin dit combiné qui permet une seule injection, le fameux DTP. Mais revenons une fois encore à notre variole adorée. La variole donc, premier vaccin, première stratégie vaccinale de masse, mais aussi première et seule maladie humaine éradiquée à l'échelle de la planète. Hormis un accident de laboratoire survenu en 1978, le dernier cas humain est observé en 1977 et l'OMS déclare officiellement son éradication en 1980. En France, l'obligation vaccinale est donc suspendue en 1979, puis supprimée en 1980. Écoutons à ce propos un extrait de la mécanique des épidémies diffusée sur France Culture en 2022.
Trois ans après le dernier cas humain, l'OMS va pouvoir dire, on est en mai 1980, la variole est éradiquée et il n'est plus nécessaire de vacciner les gens contre la variole. C'est important parce que, à force, quand le nombre de cas a diminué mais que la vaccination était faite à large échelle, il y avait plus de dégâts causés par la vaccination que par la variole elle-même. La deuxième chose, c'était un côté financier, c'est que ça coûtait cher, ces histoires-là, et de pouvoir arrêter a été quelque chose qui a beaucoup soulagé les bailleurs de fonds. Cette éradication de la variole est quelque chose qui, économiquement, a été extrêmement profitable.
Il n'y a donc plus, il n'y aura donc plus de variole de par le monde. La maladie a totalement disparu à l'état endémique. Le dernier cas connu remonte au 26 octobre 1977. 2 ans se sont passés sans qu'aucun autre cas ne soit signalé. 2 ans, c'était précisément le temps que s'étaient donné les experts de l'OMS pour pouvoir affirmer que la maladie avait cessé d'exister. Si bien que le directeur général de l'OMS, le docteur Mahler, a proclamé ce 26 octobre variole jour zéro.
Je proclame.
Le temps passe et en 2007, l'obligation vaccinale contre la tuberculose est levée, le vaccin devenant simplement recommandé. Cette décision fait suite d'une part à la baisse régulière du nombre de cas de tuberculose et d'autre part au changement de vaccin utilisé. La nouvelle forme est plus difficile à administrer et susceptible de présenter un risque d'effet indésirable supérieur au vaccin antérieur. Cela inverse ce que l'on appelle le rapport bénéfice-risque du vaccin. C'est-à-dire que le risque individuel lié à la vaccination n'est plus justifié par le bénéfice individuel et collectif. Par contre, l'obligation vaccinale pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est maintenue, même s'il y a de moins en moins de cas. Toutefois, pour des raisons liées au développement d'autres vaccins, mais probablement également pour des motifs commerciaux, au fil des années, les vaccins combinés DTP sont remplacés par des vaccins incluant également la coqueluche, l'hémophilus influenza B ou encore l'hépatite B. En parallèle, les firmes pharmaceutiques arrêtent les commercialisations des vaccins historiques et en 2008, le dernier vaccin DTP disponible en France est retiré du marché pour des réactions allergiques. Il faut alors s'en remettre aux vaccins plus récents qui contiennent, comme on vient de le voir, 4, 5 ou 6 valences, c'est-à-dire antigènes différents, et que les laboratoires promeuvent. Reportage télé, le 8 février 2017.
Même en cherchant bien, impossible de trouver l'historique vaccin DTP contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Depuis 2008, les laboratoires ne le fabriquent plus, au profit de super vaccins.
C'est 5 souches différentes, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et vaccin de la méningite B.
Pourtant, seul le DTP classique est obligatoire. Le Conseil d'État a donc décidé de contraindre l'État à faire le nécessaire pour qu'il soit de nouveau disponible sur le marché, sans association avec d'autres souches vaccinales.
Cette évolution conduit certains groupes opposés à la vaccination à saisir le Conseil d'État en 2017, estimant que l'on contraint les parents à administrer à leurs enfants des vaccins non obligatoires. Dans sa première décision, le Conseil d'État rappelle que le gouvernement dispose du pouvoir de sanctionner et contraindre les firmes pharmaceutiques qui ne respectent pas l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries pour les vaccins obligatoires. La question de l'impact des ruptures de stock sur la politique de santé publique se pose déjà, et comme aujourd'hui, avec des dizaines de médicaments en rupture ou en tension d'approvisionnement, le gouvernement se garde bien de mettre une pression trop forte sur les labos. Face à cette situation, il y a donc 2 solutions. Supprimer intégralement l'obligation vaccinale pour les nourrissons ou l'élargir à toutes les vaccinations recommandées et déjà associées dans les vaccins combinés qui, au miracle, sont également déjà commercialisés. Vous imaginez bien que c'est la deuxième qui l'emporte et la loi de financement de la Sécurité sociale rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, 8 vaccins supplémentaires pour les nourrissons, sans poursuite pénale, mais avec une impossibilité d'être en structure collective, crèche, assistante maternelle, garde partagée, pour les enfants non vaccinés. Début 2025, un vaccin supplémentaire rejoint la liste et voilà, on a nos 12 vaccins obligatoires.
Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his belly ache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor,
get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve his belly ache. I said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor.
Comme on vient de le voir depuis ses débuts et hormis à la fin du 19e siècle, lorsqu'elle a été imposée aux conscrits, la vaccination obligatoire a surtout concerné les enfants. Pour les adultes, elle arrive plus tardivement et concerne au début surtout les professionnels qui travaillent dans le secteur médical. En France, cette obligation est régie par deux réglementations différentes. Le Code de la santé publique, qui oblige les étudiants des filières médicales et paramédicales à être vaccinés contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. L'obligation de vaccination contre la tuberculose a été suspendue en 2019. Cette obligation s'applique aussi au personnel exerçant une activité qui les expose ou qui expose les personnes dont elles ont la charge dans un établissement de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées. S'y ajoutent aussi les personnels pénitentiaires et certains personnels des pompes funèbres. Donc si on résume, aujourd'hui pour les adultes, l'obligation vaccinale ne concerne que certaines professions et les étudiants et étudiantes de ces filières et s'applique aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. L'extension à d'autres vaccins comme la grippe est régulièrement évoquée mais pas mise en œuvre, malgré une couverture vaccinale considérée comme insuffisante. À ce sujet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit d'introduire une obligation vaccinale contre la grippe et la rougeole pour les professions de santé et les étudiants et étudiantes. Voilà, j'ai essayé de faire le tour de l'obligation vaccinale et je me rends compte que je me suis bien dispersé. Alors que retenir de tout ça et comment conclure? Tout d'abord, l'histoire nous montre que cette notion a émergé en France, comme dans d'autres pays, dès la mise au point des premiers vaccins. Au gré de l'évolution des maladies, des recommandations des autorités de santé, mais aussi des décisions politiques, la liste des vaccins recommandés ou obligatoires a constamment évolué, avec certaines vaccinations passant de l'une à l'autre des listes, voire même disparaissant. Jusqu'à la crise du Covid, cette obligation s'est essentiellement appliquée aux très jeunes enfants de moins de 2 ans. Les sanctions encourues étaient liées à l'interdiction d'accès aux lieux de garde collectifs, mais pas de nature pénale. La décision de vacciner ou pas relevait d'une décision parentale, même si tout était fait pour l'orienter dans un sens, bien évidemment. Cette obligation disparaissait ensuite pour les adultes, à part pour les professions de santé. Pour les autres, elle était remplacée par une simple recommandation. Il est difficile de connaître le nombre d'enfants qui n'étaient pas vaccinés avant l'extension de 3 à 12 vaccins obligatoires, mais les données épidémiologiques suggèrent que pour la diphtérie, le tétanos et la polio, la cible d'une couverture vaccinale de 95% est atteinte depuis des années. Et pour rappel, la variole a été déclarée éradiquée à l'échelle mondiale en 1980. Cela suggère que l'obligation vaccinale appliquée aux enfants est depuis le début relativement bien acceptée, même s'il existe une réelle hésitation vaccinale et des mouvements opposés à toute obligation, voire toute vaccination, que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Comme on l'a dit au début, la coexistence de certains vaccins obligatoires et d'autres recommandés n'a pas de rationnel en termes de santé publique et crée une confusion sur la nécessité, la sécurité, l'efficacité de certains vaccins. On peut par exemple penser au vaccin contre le papillomavirus qui fait l'objet de grandes campagnes de vaccination au collège. La crise du Covid a créé 2 précédents. Pour la première fois, une obligation vaccinale a été imposée à près de 70 professions, bien au-delà du secteur du soin, assortie de sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension. Ensuite, la création du pass vaccinal a été perçue comme une obligation vaccinale généralisée, déguisée, décidée abruptement. Pourtant, quelques années plus tard, la liste des vaccins obligatoires a été multipliée par 4 sans susciter de réaction particulière. Est-ce que c'est parce que cela n'a pas été annoncé par Macron? Ou parce que personne ne s'en est rendu compte? Ou bien parce que cela ne concerne que les enfants et que les parents gardent un pouvoir décisionnaire même s'ils l'appliquent rarement? Je vous laisse vous faire votre propre opinion et vous dis à bientôt. Allez, santé !